promesses en cet âge également. Oh, si nous sommes sincères. Oh, Seigneur, cette promesse a été donnée à ton serviteur. Si cela lui a été donné, à combien plus forte raison, cela nous incombe également si nous sommes sincères. De nous-mêmes, cette sincérité, nous ne l'avons pas. Nous comptons sur la sincérité de Jésus-Christ, que tu nous assistes. Tu avais promis que si nous étions sincères, oh Dieu, que si le frère était sincère, ce qui nous incombe également aujourd'hui, aucune maladie ne résisterait à notre prière. Donne-nous cette sincérité pendant que nous prions pour la nièce de notre frère et pour notre frère avec qui nous nous assemblions autrefois, notre frère François Kabashi. Que tu te souviennes de lui là où il est hospitalisé. Que, ô Dieu, que les meurtrissures de Jésus-Christ auxquelles nous croyons, qu'elles ont été faites pour sa guérison, pour la guérison de la nièce et pour tous ceux qui sont nécessiteux d'une bonne santé. Nous nous attendons à toi, Père Céleste, et nous te remercions de nous avoir permis de nous assembler ce soir. Donne-nous la foi qu'il nous faut, Seigneur. Oh, accorde-nous cette grâce que tu as accordée aux Thessaloniciens, comme nous en avons parlé. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit honoré au milieu de nous. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Dieu vous bénisse. Mercredi, nous avons parlé des frères Thessaloniciens, des frères de Thessalonique. Combien ces frères, malgré les afflictions auxquelles ils étaient soumis, malgré les souffrances qu'ils avaient, malgré les difficultés dans lesquelles ils étaient, leur foi, ils étaient donc criblés, n'est-ce pas, de problèmes, combien leur foi, au lieu de régresser, leur foi a progressé. Il ne faut pas toujours penser que la foi doit progresser seulement quand tout va bien. À ce moment-là, vous ne pouvez pas évaluer exactement où vous en êtes. Et nous avons vu donc que la foi des chrétiens, elle ne doit pas être statique, elle doit évoluer. Amen. C'est-à-dire du point de vue de la foi, là où vous en êtes aujourd'hui, devait être meilleur qu'hier. Hier, quand vous aviez moins de problèmes. Hier, quand tout allait bien. Amen. Quand l'enfant allait bien, quand l'épouse allait bien, quand l'époux allait bien, parents, n'est-ce pas, frères, sœurs, quand tout cela allait bien. Les Thessaloniciens ont vécu ces moments-là. Au chapitre 4, nous voyons qu'ils ont dû déplorer le départ de certains frères. Amen. Et ils étaient dans l'affliction à cause de ça. L'apôtre a dû, par le Saint-Esprit, le rappeler qu'il ne soit pas dans l'ignorance, il ne voulait pas qu'il soit dans l'ignorance au sujet de ceux qui les ont précédés. En quel but? C'était dans le but que les Thessaloniciens ne s'affligent pas comme ceux qui n'ont pas d'espérance. Vous et moi, nous en avons. Amen. Nous avons une espérance. Et Lorsque ces choses arrivent, nous ne sommes pas épargnés de cela. Lorsque ces choses arrivent, nous devons toujours nous souvenir ce que Dieu a dit à propos de ça. Parce que la foi, c'est la foi en la parole de Dieu. Et nous avons vu que certains, au temps de Moïse, alors qu'ils avaient un prophète, Dieu avait envoyé, à travers de ce prophète, Dieu a fait de grandes choses. Un peu comme vous et moi en cet âge. Lorsque nous lisons les brochures, nous n'étions pas là en 62, 63, 57, 53, 54, toutes ces années-là où toutes ces choses étaient faites. Si nous n'étions pas là, nous avons néanmoins des enregistrements. Vous entendez encore les voix de ces gens-là. Comment les assemblées, n'est-ce pas, brûlaient, comment glorifier Dieu, voyant ce que Dieu faisait. Aujourd'hui, le monde entier le sait, bien sûr, comme avec, ça a été comme ça avec le Seigneur, et il a dit que le serviteur n'est pas plus grand que le maître, n'est-ce pas? Le Seigneur a fait de grandes choses, puis quand il est parti, les gens ont commencé à y placer des doutes. C'est pareil également avec le message. Nous voyons des personnes ayant cru au message aujourd'hui commencer à se retirer petit à petit. C'est parce que, au lieu de croire en la parole de Dieu, ils ont cru en un homme. Vous croyez en un homme, soyez sûr d'une chose. Un jour ou l'autre, vous serez déçus. Une certitude, quel que soit le nom de cet homme, quelle que soit la grandeur de son ministère, un jour ou l'autre, vous serez déçus. Par contre, Dieu ne vous décevra jamais. Amen. Donc, il y en a, Jannès et Jambres, a dit qu'eux ne pourront pas faire plus de progrès, parce qu'ils s'étaient opposés à la vérité, ils s'étaient opposés à Moïse, Moïse étant le prophète de l'âge. Et ceux qui s'opposent au fait de l'âge aujourd'hui n'iront pas de progrès en progrès non plus. L'enlèvement va commencer à s'éloigner d'eux petit à petit, alors qu'il y a quelques années, ils se voyaient enlevés, où il disait à qui voulait les entendre que, frère, je serai enlevé. Aujourd'hui, ils ont ce doute-là. Et ils croient que, finalement, ce n'était pas le prophète qu'il fallait. Ce n'est pas grave, si ce n'est pas ce prophète-là, mais au moins, vous savez qu'il y a un enlèvement. On ne vous demande pas de dire que c'est vraiment ce prophète-là. Ce qu'on vous demande, c'est de croire qu'il y a un enlèvement. Et y aller. C'est ce que Paul a fait, il a parlé de l'enlèvement aux Thessaloniciens. Il leur a demandé, ne vous affligez pas. Et ces gens-là, l'apôtre Paul a dit, ceux qui se sont opposés à Moïse, Jannès et Jambres, malgré tous les miracles que Dieu a fait au travers de Moïse, eh bien, la Bible nous dit qu'eux ne feront plus de plus grands progrès. Ils n'en feront pas. Ceux qui s'opposent à Moïse, cet âge, aux prophètes de cet âge, dans chaque âge, c'est comme ça. Ceux qui se sont opposés aux prophètes de leur âge, ils n'ont plus fait de progrès quant à la foi. Parce que la parole de Dieu est vivante. Ce n'est pas un extrait de règles de morale, pas comme on peut trouver dans le Coran ou ailleurs, qui ne progresse. Non, cette parole est vivante. Elle vous parle de l'actualité d'hier, elle vous parle de l'actualité d'aujourd'hui, elle vous parle de l'actualité de demain. vivante. Et votre foi doit être une foi vivante. En plus de cela, il y en a eu d'autres qui ont également eu des problèmes. Eux, il nous a été dit, ils ont fait naufrage quant à la foi. Pas, il s'agit de Hyménée et d'Alexandre. Hyménée et Philette, je crois, ou Alexandre, mais nous allons voir un peu dans 1 Timothée 1, 20. Bon, verset 18, la recommandation que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes le bon combat. Nous savons qu'il s'agit du combat de la foi. Garder la foi, c'est un combat. Vous devez combattre en gardant la foi et une bonne conscience. Donc votre combat consiste, pendant que vous combattez, à garder la foi et une bonne conscience. Si vous perdez l'une des deux, ça ne va pas. Et la conscience, cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi, c'est-à-dire qu'ils ont coulé. Ce nombre sont Hyménée et Alexandre, que j'ai livré à Satan afin qu'ils apprennent à ne pas blasphémer. Hyménée, on le retrouve aussi encore dans 2 Timothée 2, 3, avec un autre comparse, Philette. Qu'est-ce que eux faisaient? Verset 16, 2 Timothée 2, 16. Évite les discours vains et profanes. Ça va? Car ceux qui les tiennent avanceront toujours plus dans l'impiété. Ils n'ont plus la crainte. Et leur parole rongera comme la gangrène. De ce nombre sont Hyménée et Philette qui se sont détournés de la vérité. Le message que Dieu nous a fait grâce de nous envoyer, c'est la vérité de la parole de Dieu. Je vous parle du message. Je ne vous parle pas du poulet que le frère appréciait. Je ne vous parle pas de ces choses-là. Je vous parle du message de Dieu. Je vous dis que Jésus-Christ n'est pas resté dans quelques mois, c'est ce que le monde entier essaiera de nous faire croire. Il est resté le petit bébé dans la crèche. Christ, c'est Jéhovah, l'Ancien Testament, c'est le Jésus-Christ du Nouveau. Si nous savons qu'il est le même aujourd'hui, tel qu'il était hier, alors ils se sont détournés de cette vérité-là, disant que la résurrection est déjà arrivée. Nous en avons aujourd'hui déjà qui le disent. Résurrection en esprit, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais nous savons qu'une résurrection, c'est ramener à la vie ce qui est tombé mort. Et la résurrection, il ne s'agit pas d'un autre corps. Il nous est bien dit que c'est le corps qui a péché, ressuscitera. Ça manifeste justement la grâce de Dieu. Ça explique pourquoi Moïse... Michaël, pardon, et Satan sont disputés le corps de Moïse. Ce corps-là de Moïse avait péché, mais ce corps avait de l'importance devant Dieu. Pourquoi? Parce que ce corps, Dieu l'avait racheté. Ce corps, Dieu ne voit plus le péché que ce corps a commis. C'est ce corps qui sera transformé. Dites amen à ça. Amen. Sinon, ce n'est pas vraiment un miracle. Si c'est un autre corps, comme certains essaient de le dire, eh bien, c'est que ça veut dire tout simplement qu'on a remplacé ce corps par un autre. Non, non. Ce n'est plus une résurrection. C'est un remplacement. ont quelques-uns, et ils renversent avec ça, avec leur doctrine, ils renversent la foi de quelques-uns. Lorsqu'on vient vous dire que l'enlèvement a déjà eu lieu en esprit, ça n'a pas d'autre effet que vous enlever la foi. Parce que si vous êtes là ce soir, c'est parce que vous croyez que vous serez enlevé. Amen. Si maintenant vous me dites que ça ne sert à rien, l'enlèvement a eu lieu, ben, enfin, si vous me dites que l'enlèvement a déjà eu lieu, ça ne sert à rien. D'abord, un, que je vienne prêcher. Deux, ça ne sert à rien que je vienne encore ici. Ça va? Que Dieu soit loué. Que Dieu vous bénisse. Mais nous n'avions pas terminé sur ce thème-là. Encore une étape. Et l'étape sur notre étape concernant la foi, c'est justement aller de la foi à l'incrédulité. Allons nous lever et lire dans Hébreux chapitre 3. Verset 14. On peut commencer au verset 13. Mais ce qui nous intéresse, c'est le 16. Mais pour avoir le contexte. Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour. Amen. Aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui. Afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Le péché est très séducteur, car nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance. Vous êtes sûr de ce que vous avez croyé, de ce que vous avez cru? Amen. Jusqu'à la fin. L'assurance que nous avions au commencement. Ne perdez pas cette assurance. Ne vous laissez pas ébranler. Pendant qu'il est dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte. Qui furent en effet ceux qui se révoltèrent après avoir entendu sa voix, sinon tous ceux qui étaient sortis d'Égypte sous la conduite de Moïse? Sont ceux-là qui se sont révoltés. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Nous allons parler de cette révolte. La révolte selon Dieu. Comme, on va intituler comme c'est écrit, comme lors de la révolte. Qu'est-ce que Dieu avait fait avec ce peuple? Et pendant que nous essayons de voir ce que Dieu a fait avec ce peuple, nous essayons d'appliquer cela sur nous. Paul, dans Hébreux, croyons que c'est Paul qui a écrit, si ce n'est pas Paul, ce n'est pas grave, c'est écrit quand même. Ce qu'il a écrit. Il nous dit que ces gens-là se sont révoltés contre Dieu. Maintenant, qu'est-ce qui les a conduits en dehors de l'Égypte? Qui les a conduits hors de l'Égypte? Est-ce que c'est Moïse? Non. Moïse était instrument humain. Et regardons bien dans notre âge. Le peuple de Dieu était dans un repos instable. étaient esclaves. Ils étaient opprimés. L'Égypte les faisait souffrir. N'oublions pas que le début de ce peuple en Égypte était un début joyeux. Ils sont allés, ils ont trouvé à manger pendant qu'il y avait la famine chez eux. Ils s'y sont installés. On leur a donné les meilleures terres pour pouvoir y vivre, faire leur travail d'éleveur. Pendant que les Égyptiens avaient plutôt l'habitude d'élever gros bétail, eux, ils élevaient petit bétail. Boutons, les agneaux. Et ils étaient en abomination aux yeux des Égyptiens. Le peuple a perdu tout son bonheur, toute sa joie, et s'est mis à pleurer. Il s'est mis à crier. S'est mis à gémir, un peu comme nous, toute la joie que nous avions au début, quand tout a bien commencé, ça s'est estompé. On commence à connaître les huissiers, on commence à connaître les bobos, on commence à connaître toutes sortes de maladies, notre repos instable. Quand ce n'est pas nous qui sommes malades, c'est l'un des nôtres qui est malade, il faut soigner, il faut prendre soin, il faut s'en charger. Et finalement, cette lourdeur, on commence à la sentir. Israël, en ce temps-là, a prié, a crié. Dieu ne répondait pas. Dieu avait dit à Abraham 400 ans. 400 ans devaient s'accomplir. À partir de combien d'années en Égypte, à partir de combien d'années est-ce que les Égyptiens ont commencé à les opprimer? Je ne sais pas. À partir de combien d'années après avoir cru? Ça a commencé bien pendant votre vie. Après combien d'années de votre vie, vous avez commencé à trouver que la vie, ce n'est pas ce qu'elle devrait être, n'est-ce pas? C'est que certains chanteurs vous chantent. Après l'avoir chanté, il y en a qui se suicident parce que c'est dur à vivre. Après combien de temps, après quel âge avez-vous constaté que la vie sur terre n'est pas facile? Ça va? Et c'est à partir de ce moment-là que l'on commence à se poser des questions. Il y a un Dieu. Et effectivement, il y a eu Joseph autrefois pour Israël. Ce qui nous concerne, il y a eu Jésus-Christ. Joseph a fait vivre l'Égypte dans l'abondance. Quand Jésus-Christ était là, les enfants de Dieu ne manquaient de rien. Ils n'avaient pas besoin d'aller chez les médecins. Ils n'avaient pas de problème de maladie. Christ est parti. Certaines maladies se sont installées. Finalement, les années passant, on voit que ces maladies de plus en plus opiniâtres. Covid que vous ne connaissiez pas, vous finissez par connaître. Des cancers peut-être que vous ne connaissiez pas, vous finissez par connaître. Ce qui fait que vous n'êtes pas à l'aise dans ce monde. Et Dieu voit que son peuple n'est pas à l'aise. Quand ils étaient à l'aise, je ne sais pas s'ils criaient à Dieu, au Dieu d'Abraham. Parce que bon, il n'y avait pas de raison. Tout allait si bien. D'ailleurs, les patriarches, tous, même Jacob lui-même, ils sont morts en Égypte. Jacob a demandé à ce qu'ils soient enterrés près de Rachel. Jacob, qui s'appelle Joseph, également a demandé à ce qu'on ne l'enterre pas là. Mais les autres, Ruben, Siméon, Judas, tous ces patriarches, où donc ont-ils été enterrés? Oui. Dans Exode 3, verset 6, Dieu ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage car il craignait de regarder Dieu. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple. Mes bien-aimés, les souffrances que vous endurez, Dieu voit. Ne vous découragez pas. Rien que cette pensée, que cela vous donne du courage. Que Dieu voit et réagissez comme un fils de Dieu. J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens. Pas une bonne parole, ça. Et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Hétiens, les Amoréens, les Phéréziens, les Éviens et les Jébusiens. Voici, les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi. Israël ne se doutait pas de ça, que ces cris arrivaient jusqu'à Dieu. Mais c'est la réalité. Et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Frère dit, ils étaient en dehors de leur patrie. Ils étaient étrangers et pèlerins ou voyageurs sur la terre. Là-bas, en Égypte, c'était des pèlerins. Ils ne devaient pas rester en Égypte. Quand vous êtes en Égypte, vous dressez une tente. Vous ne construisez pas une maison en briques. Vous érigez une tente. Et comme nous dit l'apôtre dans Hébreux 11, verset 13, c'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vues et saluées de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Remarquez, quand ils sont morts dans la foi. Dites amen à ça. Ils ne l'ont pas perdu. Comme dit Paul, qu'il a combattu le bon combat, il est arrivé à la fin, il a gardé la foi. Aujourd'hui donc, le péché abonde. Il y a les tentations, les passions de la jeunesse. Il y a le vieillissement de nos corps. Et nous voyons, il y a quelque chose qui ne va pas. Nous ne sommes pas chez nous. Parce que chez nous, ces choses n'y sont pas. Chez nous, nous savons que nous avons cette promesse, ces promesses, que quelqu'un s'est chargé de nos souffrances. L'apôtre Pierre nous dit, nous demande de nous décharger de nos soucis. Chez nous, nous ne sommes pas soucieux. Il y a un endroit où nous décharger de tous nos soucis. Il est bien dit dans 1 Pierre 5, de tous nos soucis. Ça, c'est chez nous. N'est-ce pas? Nous ne sommes pas chez nous ici. C'est pourquoi, en ce qui nous concerne, Hébreux 11, 13 reste valable. Nous sommes également étrangers et voyageurs ou pèlerins sur cette terre. Nous sommes différents. Nous ne sommes pas comme les gens du monde. Nous ne vivons pas comme le monde. Aujourd'hui, nous ne sommes pas rassurés lorsque l'un de notre dans la maison n'est pas rentré. Nous ne sommes pas rassurés en voyant le péché s'infiltrer sur la manière de marcher de nos enfants, de nos frères, de nos sœurs. Nous ne sommes pas rassurés de ce que le monde nous réserve ou réserve à nos enfants. Parce que des loups en habit d'agneau se sont incrustés au milieu de nous. Nous sommes chez eux et ils viennent nous faisant vivre la vie d'ici. Comme Hyménée et son comparse, ils s'opposent à la vérité. La vérité dit, tu ne commettras pas telle chose. Eux, ils viennent, ce sont des gens qui étaient parmi les croyants. Ce n'était pas n'importe qui. Eux, ils viennent et disent, mais non, ce n'est pas ça. Et ils vous entraînent dans des choses qu'il ne faut pas. Ça va? Parce que si nous étions chez nous, chacun respecte l'autre. Chacun prie pour l'autre. Et comme nous avons lu, exhortez-vous. Chacun exhorte l'autre à ne pas commettre le mal. Mais n'étant pas chez nous, il y en a qui s'incrustent et nous exhortent au mal, nous encouragent à faire le mal. Et quand ils nous y introduisent dans le mal, ils disparaissent. Ils ne sont pas là pour vous aider. Ils sont même les premiers à vous enfoncer. Frère dit, c'est mauvais pour un chrétien de s'associer à des gens qui boivent, qui parlent, qui racontent des blagues, de sales blagues, qui imitent ceux qui sont mal habillés, celles qui sont mal habillées. Quand nous voyons cela, nous ne sommes pas à l'aise. Nous hochons la tête. En hochant la tête, nous montrons par là, dit l'apôtre aux Hébreux, que nous cherchons une cité. Une cité où chaque personne que vous croiserez, vous lui direz « Shalom frère, shalom sœur ». C'est cette cité-là que nous cherchons. Cette cité, Dieu en est le fondateur. Hein? Maintenant, ils en désirent une meilleure, n'est-ce pas? Une patrie meilleure que celle que nous avons quittée. Dieu est venu, par sa grâce, nous a sortis du monde. Nous a rachetés du monde. Et quand il nous a rachetés du monde, il nous a dit de ne pas imiter le monde, de ne pas faire les choses du monde. Maintenant, ce qu'il y a, nous montrons que nous désirons une meilleure cité, une meilleure patrie que là où nous étions, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Nous cherchons donc une cité. Dieu est donc descendu autrefois en Égypte dans une colonne de feu et leur a envoyé Moïse. Envoyé Moïse aux enfants d'Israël. Nous savons qu'à notre âge, Dieu nous a envoyé un prophète. Nous le chantons. Il nous a envoyé un prophète de louons. Pour le prophète que tu nous as envoyé, nous te louons. Et c'est là où vous voulez en arriver. Par la foi, n'est-ce pas? Quand Moïse est allé les chercher, Hébreux 11, au verset 24, c'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Il préféra être maltraité avec le peuple de Dieu plutôt que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Vous pouviez le prendre pour une poule mouillée, ce n'est pas grave. Mais c'est la foi. Il regarda l'opprobre de Christ. Il se moque de vous. Si c'est pour Christ, eh bien, c'est bien. C'est une richesse. Comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte. Comme une richesse plus grande que les plaisirs de l'Égypte. Car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Ne détachez jamais vos yeux de cette rémunération. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme comme voyant celui qui est invisible. C'est par la foi qu'il immola la Pâque et fit l'aspersion du sang afin que l'exterminateur ne touche pas au premier-né des Israélites. Cet exterminateur viendra certainement sur cette terre sous la forme, n'est-ce pas, de Satan II, de ces missiles qu'on est en train de fabriquer à tour de bras, qui seront certainement utilisés. Il y en a qui seront destinés aux États-Unis, comme disait le frère, en un autre, ils seront destinés à l'Empire romain, où vous êtes. Quand vous entendez Rome, ne pensez pas à Rome, la ville. Pensez à Rome, l'Empire. Ça va? Et l'Empire romain, eh ben, c'est l'Italie, bien sûr, c'est la France, c'est l'Allemagne. Regardez bien l'Union européenne. C'est Babylone. Il y a une Babylone qui sera détruite par le feu, l'autre par les eaux. Ça va? Dans Apocalypse. Toujours nous y reviendrons. Ah oui, au fait, à un moment donné, j'ai hésité. Frère a posé la question ici, je ne sais plus si c'était dimanche ou vendredi, les avantages du chrétien. Vous ne devriez pas hésiter. J'ai regardé la date, ça avait été prêché le 9 janvier 2019. Pas oublié. Des avantages du chrétien. Vous en avez beaucoup. C'est rare que je garde les notes, mais ça, j'avais. J'ai dit, mais c'est pas possible, comment est-ce qu'ils ne répondent pas? Hein? Il est grand. Il est parti de Romains 3. Hein? Un grand avantage que vous avez, nous avons un frère qui est hospitalisé ce soir, aujourd'hui, à Saint-Luc. Nous avons l'avantage de prier pour lui. C'est un avantage. Et dans Romains 3, c'est juste un petit détour que je prends. Dans Romains 3, j'ai hésité, j'ai voulu reprendre ça, mais bon, je ne suis pas conduit. Je dis non, je dois terminer le sujet de mercredi passé. Romains 3, il pose la question, quel est donc, verset 1er, quel est donc l'avantage des Juifs? Ou quelle est l'utilité de la circoncision? C'est vrai, moi, je ne pose pas de questions. Maintenant, si vous tombez sur un prédicateur qui pose des questions, n'ayez pas peur. Vous savez, si c'est dans la Bible, n'ayez pas peur. Vous avez raison. S'il vous dit que c'est faux, c'est lui qui a tort, si c'est biblique. Ça va? Il dit, il est grand. Et oui, on en a parlé quand le frère, je ne sais plus si c'était mercredi, vendredi ou dimanche, il est grand de toute manière cet avantage. Et tout d'abord, le premier avantage, c'est que les oracles de Dieu leur ont été confiés. Amen. 9 janvier 2019, il y a 6 ans. C'est tout Dieu dans les boucles? Non? Ça va? Oui. N'oubliez pas vos avantages. Ce n'est pas pour la beauté de la prédication que cela est apporté. C'est pour que vous connaissiez. Vous savez, le monde a ses avantages à lui. Il donne. Par exemple, vous ouvrez votre boîte aux lettres, vous voyez toutes ces publicités qui tombent, et puis, waouh, grande promotion. Comme le fiston avait mis dans leur groupe des jeunes, là, il y a des trucs à bon prix au magasin qu'on va fermer ici au courant. Ben, si vous ne connaissez pas ça, vous allez acheter ça ailleurs à des prix exorbitants. Or, celui qui connaît les avantages, il va aller chez Cora. Il va acheter ça là-bas. Et puis, vous allez constater, ah tiens, moi, j'ai acheté ça à 50 euros. L'autre vous dira, moi, j'ai acheté au Cora à 19 euros. Vous regrettez? Le chrétien a ses avantages à lui, amen, que seul le chrétien connaît. Amen. Le monde tremble, mais vous, vous ne tremblez pas. Amen. Parce que vous avez une promesse. Amen. Et la promesse est pour vous. Amen. Donc, Dieu a envoyé Moïse dans une colonne de feu. Ceux qui ont quitté l'Égypte, ils ont quitté l'Égypte par la foi. Hébreux 11. Là, nous voulions commencer, en fait. Hébreux 11. Verset 29, c'est par la foi qu'ils traversèrent la mer Rouge comme un lieu sec, tandis que les Égyptiens qui tentèrent de passer furent engloutis. C'est par la foi. Ils avaient la foi quand ils ont quitté l'Égypte. Amen. Vous aussi, quand vous avez quitté le monde, c'est par la foi. Vous avez cru en l'évangile. Vous avez cru en l'appel de Dieu. Mais quand ils sont partis, Une fois dans le désert, la première chose qui leur est arrivée, ici je cite, hein, ils ont eu des troubles. C'est Dieu qui a envoyé ces troubles. Frère dit, Dieu aime faire ça pour voir comment vous allez réagir. Et Dieu veut aussi déployer sa puissance et son amour sur son peuple. Amen. Oh. Comme il dit, alléluia.
Amen.
Les voici de l'autre côté, dans le désert, de l'autre côté de la mer Rouge, criant et sautant, ayant du bon temps. Quel jour de gloire. Et quand juste avant de traverser, ils étaient déjà contents de partir, de quitter l'Égypte. Quand ils ont regardé en arrière, qu'est-ce qu'ils voient? La première chose qu'ils voient, ils voient de la poussière. C'est quoi cette poussière? Oh, c'est Pharaon qui vient. C'est Dieu qui a envoyé Pharaon. La Bible nous dit, Pharaon a été suscité à dessein. Il a été suscité pour qu'il les poursuive. Il a été suscité pour qu'il ne les lâche pas facilement. Si c'était quelqu'un d'autre, il allait les lâcher facilement. Mais il fallait quelqu'un avec le cœur de Pharaon. Et Dieu qui connaît nos cœurs, même avant même que nous soyons formés dans le ventre de nos mamans, Dieu savait qui était Pharaon. Et il avait destiné à cet âge-là. Pilate dit au Seigneur, tu sais que j'ai le pouvoir de te libérer. Le Seigneur lui dit, tu n'aurais eu aucun pouvoir s'il ne t'avait pas été donné d'en haut. Même aujourd'hui, ceux qui font le gros coup, s'ils ont un pouvoir, c'est Dieu qui leur a donné. Et Dieu les a délivrés. Moïse, pourquoi s'écrie? Parle au peuple d'Israël. Et Moïse a crié, ces Égyptiens, vous ne les verrez plus jamais. Et puis ils arrivent de l'autre côté, il n'y avait pas d'eau à boire. Dieu étant Dieu, Dieu était capable de créer une rivière avec de l'eau potable tout le long de leur parcours. S'il avait voulu. Mais il a voulu qu'ils tombent dans les eaux amères, que vous connaissiez un peu les amertumes du monde, de la vie. Oh my, que son nom soit béni. Pourquoi Dieu a-t-il laissé cela, frère Branham? Pourquoi Dieu a-t-il fait ça? Il dit ça, c'est son affaire. That's God's business. Les pas des justes sont ordonnés par le Seigneur. Oui, monsieur. Vous avez perdu tout votre argent. Que Dieu soit béni. Il y a eu une énorme tempête qui a balayé votre maison. Que Dieu soit béni. Bénissez Dieu. Il a donné, il a repris. Que son nom soit béni. Vous continuez toujours à marcher. Ça va? Et ils sont arrivés au désert. Bon, le temps est passé. Ils sont arrivés au désert de Sin. Arrivés là. Bon. Vous savez, quand ils sont arrivés là, ils ont eu des problèmes. La contestation est arrivée quand? Nombre chapitre 20. Je vais juste lire le verset 13. Ce sont les eaux de Meriba où les enfants d'Israël contestèrent avec l'Éternel. C'est ça la révolte. Et cette révolte, elle nous est expliquée dans Hébreux 13. Aujourd'hui, je voulais juste vous faire remarquer qu'il est possible de quitter l'Égypte par la foi et d'arriver quasiment au but en étant incrédule. Et on rate la terre promise. Ça va? Nous ne voulons pas être de ceux-là. Hein? Et l'apôtre nous le dit, temps est passé, l'apôtre nous le dit dans Hébreux 3. Il dit qu'il y a moyen de perdre complètement la foi. Pourquoi ils ont perdu la foi? Ils n'avaient plus d'eau à boire. Or, le désert est le pays de la soif. Et c'est Dieu qui a fait l'eau. Dans Hébreux 3, on nous explique qui sont ceux qui se sont révoltés. Essayons de voir par rapport à nous. Verset 16. Qui furent en effet ceux qui se révoltèrent après avoir entendu sa voix? Vous l'avez entendu, la voix de Dieu en ces derniers jours. Vous avez accepté. Par la foi, vous avez adhéré à ce message. Alors maintenant, s'il y en a qui se révoltent à cause de la passion de la jeunesse, à cause des passions de la jeunesse, à cause parce qu'ils vieillissent mal ou quelque chose comme ça, je n'en sais rien, ou la marche devient trop difficile. Alors, qui sont ceux, n'est-ce pas, ou ceux qui étaient sortis d'Égypte, donc ceux qui se révoltèrent après avoir entendu sa voix, sinon tous ceux qui étaient sortis d'Égypte sous la conduite de Moïse? Je peux remplacer le nom de Moïse par Brana. Et contre qui Dieu fut-il irrité pendant 40 ans, sinon contre ceux qui péchèrent et dont les cadavres tombèrent dans le désert? Et à qui jura-t-il qu'il n'entrerait pas dans son repos, sinon à ceux qui avaient désobéi? Aussi voyons-nous qu'ils ne purent y entrer à cause de leur incrédulité. Il est possible de passer de la foi à l'incrédulité. Ce sont les mêmes qui sont sortis de l'Égypte par la foi. Et ce sont les mêmes qui ne sont pas entrés en terre promise à cause de leur incrédulité. Et Jude dit que pour cette foi que Dieu a donnée à ses saints, parce que la foi est un don de Dieu, nous ne devons pas oublier, ne devons jamais oublier qu'il faut combattre pour cette foi. Il avait reçu un très bon message, une très bonne inspiration ce jour-là, quand il leur a écrit. Il voulait les exhorter de cette inspiration-là. Le Saint-Esprit est venu leur dire, parce que c'était des temps difficiles, hein. C'était des temps de la persécution. Jude dit, on va terminer par là, au verset 3, « Bien-aimés, alors que je désirais vivement, c'était vif dans son cœur, vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé. » Qui l'a obligé? C'est le Saint-Esprit. C'est ce que Pierre dit. 2 Pierre, chapitre 1er, poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont écrit de la part de Dieu. « Je me suis senti obligé de vous envoyer cette lettre pour vous exhorter à combattre pour la foi. » Combattez pour la foi, ne la perdez pas. Gardez-la pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Dieu leur a donné la foi en quittant l'Égypte. Ils n'allaient pas encore essayer de revenir, leur redonner encore la foi, n'est-ce pas, à Meriba. Ils devaient garder cette foi. Car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dérèglement et qui renie notre seul maître et Seigneur, Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. L'incrédulité, c'est ça le péché. Si vous avez quitté par la foi, on aime bien dire c'est la foi du début, frère. Quand je demandais à Dieu, j'avais demandé à Dieu pour qu'il pleuve pas, il n'a pas plu. J'ai demandé à Dieu pour ceci, j'ai eu les questions d'examen, j'ai demandé à Dieu cela, j'ai eu ça. Finalement, lorsque les difficultés viennent, on oublie tout ça. Et on commence à douter. Ne doutez pas. Ce Dieu-là qui vous a béni au début de votre marche, c'est le même Dieu qui vous bénit à la fin de la marche. Prions. Que Dieu vous bénisse.
Que nous avons un gros trésor et
permet
de manière qu'on doit bien garder l'argent.
Cette foi, comme dit le frère, c'est vraiment un trésor. Trésor que tu nous as donné. Elle nous permet de passer outre les situations difficiles. Elle nous permet de passer par-dessus l'affliction. Elle nous permet de passer par-dessus les souffrances. En ta parole, la foi en tes promesses, sachant qu'il y a un pays, tout est bien, où il n'y a point de maladie, où il n'y a pas toutes ces choses, où il n'y a pas des personnes mal intentionnées, et où nous nous exhortons tous avec amour, avec bienveillance, où l'amour de Dieu prédomine. Cette cité existe, certainement. Nous te remercions ce soir. Te remercions pour ta bonté. Souviens-toi de nos cris. Souviens-toi de nos prières. Comme tu t'es souvenu des prières de Zacharie, comme tu t'es souvenu des cris des enfants d'Israël, tu t'es souvenu de Daniel, comme tu t'es souvenu d'autres enfants, de tes enfants, ton peuple. Te bénissons, te remercions. Sois avec nous. Accompagne chacun dans sa maison, là où il est. Chaque maison soit une maison où l'on te craint, où Jésus-Christ est toujours le bienvenu. Rends-nous vainqueurs dans ce combat de la foi. Que ta grâce nous soutienne. Merci pour nous avoir réunis ce soir. Dans le nom béni de notre Seigneur Jésus-Christ, merci de nous accompagner dans nos maisons. Que tu sois avec nous, Seigneur, avec chacun, sur le chemin du retour. Si tu tardes à venir, on te remettons la journée de dimanche. Afin que tu viennes et que tu nous parles également. Au nom merveilleux, tout suffisant, de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Dieu vous bénisse.